Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Paulina. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci, toujours avec plaisir.
Alors, c'est en 2016 avec Arthur que tu as cofondé Knot. Et en fait, vous mettez à disposition des trottinettes en libre service générées par une application mobile.
C'est un peu plus compliqué que ça. En gros, nous, ce qu'on fait, on fournit. Après, c'est le pitch, c'est toujours en une phrase, c'est jamais facile. Ce qu'on fait, c'est une solution de mobilité trottinette ou vélo électrique sur station de partage. Donc, en gros, pour tous ceux qui veulent lancer une sharing de mobilité douce aujourd'hui dans les villes ou demain, c'est chez nous qu'il faut aller le voir. Et le mot-clé ici, c'est la station. Donc, on ne fait pas de partage sauvage. Des trottinettes ou des vélos qui traînent partout, qui finissent à l'eau, c'est vraiment des stations qu'on peut mettre connectées au réseau, donc recharger les trottinettes, recharger les vélos et faire quelque chose plus économique et écologique. Bah après, il y a aussi une partie importante là-dedans, donc c'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué que ça. Donc on est une solution de mobilité de A à Z, donc c'est la station, la trottinette et l'application. Donc d'un côté, on fournit cette solution à ceux qui ont besoin. Donc si demain tu veux lancer partage de trottes à Agnos et chez nous, tu peux venir nous voir, on fournit tout le système. Mais aussi dans certaines villes, comme Strasbourg par exemple ou Saverne bientôt, on a le système de partage de trottinettes justement avec application pour tout le monde. Donc n'importe qui à Strasbourg peut utiliser notre trottinette électrique avec une appli.
Comment ça t'est venu l'idée? Moi j'ai lu vite fait comme quoi ça partait d'un déjeuner. Est-ce que c'est la vraie histoire?
Ouais, il y a toujours des histoires qu'il faut, parce que le storytelling, il faut inventer une histoire, il faut s'y tenir.
Mais parlons de la vraie histoire ici.
Non, mais de la vraie histoire, c'est à l'époque, quand on a commencé en 2016, la mobilité douce, c'était pas du tout pareil. C'était, donc on avait le Vélib, on avait des systèmes de vélos partagés. Et on se disait à un moment, mais pourquoi pas la trottinette? Et la trottinette mécanique, donc on était un peu cons à l'époque. On se disait, la trottinette mécanique, c'est génial parce que c'est léger, les enfants peuvent l'utiliser.
Celle avec le pied, là?
C'est ça avec le pied, c'est ouais. Ça.
Donc, celle qui n'avance pas.
Celle qui n'avance pas et celle que tu galères et tu muscles le pied gauche et pas le pied droit. Bref, on se dit, ça va être génial si on fait le système comme ça aussi avec les stations, pas parce que ça n'existe pas. Et il y avait aussi une histoire que comme quoi, on avait des potes qui... les enfants qui grandissent et donc ils ont acheté des trottes pour les gamins et donc ils n'arrivaient pas à les suivre et ils se disaient mais mince, j'aimerais bien aussi avoir une trotte à disposition pour au moins être à la même vitesse que mes gamins.
Donc, ça c'est le storytelling.
Ça c'est du storytelling, mais c'est une vraie histoire. Ouais. Là pour le coup c'est vrai, là j'en vends pas. Et donc on est parti là-dessus, on a fait le premier croquis qu'on a dessiné et c'est à partir de là que tout a démarré.
D'accord.
On ne connaissait rien de mobilité, rien sur la mobilité, rien sur comment ça fonctionne, à qui on peut le vendre, mais allez, c'est parti.
Mais je trouve ça audacieux de miser sur la trottinette à une époque où, moi je m'en rappelle quand tu m'avais pitché ça il y a 5 ans, je te disais, mais la trottinette c'est horrible. Non mais il faut avoir l'audace de croire en son projet et dire non, la trottinette ça va le faire. Et là on voit en 2020, 2021, la trottinette ben, elle est quand même partout, ils ont commencé à réglementer, ça a commencé à jaser dans les villes, enfin, comment t'as cru à ça en 2016 dans une ville déjà où la trottinette n'existe pas?
Bah, c'est vraiment fou, c'est ce qui est marrant. Moi, je pense maintenant les premiers pitchs que je faisais il y a 5 ans, il y a 6 ans, ce qu'il fallait vendre, c'est la trottinette. C'est de dire, mes trottinettes, c'est génial, vous allez voir, ça se plie, c'est facile à utiliser, tout le monde peut faire la trottinette, parce qu'il y a à peu près 20% de personnes qui ne savent pas utiliser du vélo, parce qu'ils ne savent pas rouler le vélo, ils n'ont pas eu opportunité de l'apprendre. Trottinette, c'est autre chose, c'est hyper facile. Et aussi, il y avait aussi la question de prix, parce que trottinette, c'est moins cher que le vélo. Donc, tu peux déployer les systèmes de mobilité beaucoup moins cher et plus facilement. Et la trottinette électrique, à l'époque, elle n'existait pas vraiment encore. Donc, on entendait en parler, mais personne n'a pensé qu'un jour, il y a Lime, Bird ou autres qui vont venir mettre ce genre de système. En plus, centaines et des centaines de trottinettes dans les grandes villes à grande échelle. Donc, maintenant, aujourd'hui, mon pitch a complètement changé. Donc, je ne parle plus du tout de la trottinette, je parle de la station, de la manière de gérer le système différemment, de manière plus intelligente. Donc, ouais, ça a beaucoup changé. Pourquoi on a cru en trottinette? Ben, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est peut-être l'audace, mais c'est aussi peut-être le manque de... On a eu de la chance. On a eu de la chance que la trottinette a fonctionné. On ne savait pas que la trottinette électrique allait arriver. On ne savait pas que la trottinette allait être utilisée à ce point. On y croyait. On aimait bien le produit. Et on a sauté dedans. Aujourd'hui, si je reprends tout le parcours, tout ce qu'on a vécu, Je sais pas si je me mettrais dedans avec une tête froide comme ça dès le début.
C'était un pari, quoi.
C'était un pari.
C'est quoi la différence entre les tiennes et par exemple celle qu'on peut louer dans les grandes villes comme Paris?
Bah, si on prend après, c'est la trottinette, encore une fois, ça peut être n'importe quelle trottinette, c'est pas vraiment ça la différence. Nous, ce qu'on fait, c'est le système qui est plus écologique et plus économique avec des stations de partage. Donc, si on regarde, là, je vais vraiment dans le fond de mobilité, comment ça fonctionne, il y a des systèmes qu'on appelle free floating, et il y a des systèmes dock-based. Donc nous, on est dans le dock-based, j'explique parce que ça fait un peu trop d'anglicisme, mais il n'y a toujours personne qui a traduit ça en français proprement, en flotte libre, c'est pas beau.
C'est
donc en flotte libre, c'est les trottinettes qui n'ont pas de station, qui n'ont pas d'attache, et le frein ou le bloc se fait au niveau du moteur de la trottinette, donc il y a un IoT, c'est un module qui est connecté aussi au GPS qui est mis sur la trottinette et qui peut bloquer la trottinette à distance, notamment à travers l'application. Donc ça, c'est le système en flotte libre qui sont déployés dans beaucoup de grandes villes. Donc nous, ce qu'on dit, que la flotte libre, c'est sympa, donc c'est très sympa pour l'utilisateur, bon, mis à part le fait que l'utilisateur se le rend très fainéant quand même, de faire la mobilité de porte à porte, mais c'est très pratique, tu peux prendre la trottinette, tu peux la laisser n'importe où, donc tu la géolocalises, donc en principe, c'est génial. On se dit, on a trouvé la solution pour changer la mobilité urbaine dans le monde entier. Sauf que derrière, sur toute la logistique, si on regarde, si on arrive aujourd'hui à Paris ou dans une autre grande ville, il y a des trottinettes qui bloquent les trottoirs. Donc les gens qui se promènent, je ne parle même pas des personnes handicapées ou des personnes avec les poussettes, mais tout simplement, tu marches sur le trottoir, il y a la trottinette qui bloque le passage, ce n'est pas sympa. Donc ça pollue en quelque sorte les villes. Ensuite, les trottinettes, on dit que c'est un transport écologique, mais chaque trottinette en flotte libre, s'il a une batterie dedans, ça veut dire qu'il faut charger cette batterie. S'il n'y a pas de station, donc les trottinettes, ils ne sont pas rechargées. Donc quelqu'un doit collecter ces trottinettes ou collecter les batteries et les recharger à peu près tous les jours. Et rarement, ça se fait avec vélo cargo parce qu'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Bah, Paris, c'est grand, il faut collecter toutes les trottinettes, toutes les batteries, c'est lourd, ça se fait avec les camionnettes. Donc un impact écologique de système en free floating, elle est juste colossal et ça vient surtout de cette partie collection de batteries. Et ensuite, les trottinettes, elles ne sont pas attachées, donc tu peux les bouger, tu peux les jeter dans l'eau, tu peux les détruire et donc le taux de vandalisme est beaucoup plus élevé. Et c'est là où on arrive avec le système dock-based, avec les stations qui peuvent verrouiller et recharger les trottinettes en même temps. Donc ça enlève une autre partie de problème. C'est le réseau qui est à peu près à 60% moins cher pour opérateur. Donc là, je parle vraiment de vision opérateur qui installe et qui gère le réseau parce qu'il ne doit pas collecter et recharger les trottinettes tous les jours. Les villes sont contentes parce que les trottinettes sont bien rangées. Donc on a des lieux, on a des hubs de mobilité où on peut trouver ces trottinettes ou vélos d'ailleurs. C'est valable aussi pour les vélos. Et l'utilisateur, à la fin, il est aussi quelque part content parce que la trottinette, elle est toujours chargée. Donc tu as plus de disponibilité du réseau. Et après, moi, je suis vraiment persuadée que la personne qui peut prendre une trottinette ou un vélo, elle peut marcher aussi les 200 mètres. Donc, quelque part, faut pas parler de la mobilité porte à porte, parce que c'est un concept dangereux et polluant pour les villes, mais plutôt parler de la mobilité quartier à quartier, où on a ces endroits où on peut trouver le véhicule. Voilà, donc c'est en quelques mots, c'est quoi la différence. Ensuite, pour un trottinette même, il n'y a pas vraiment de différence. Donc trottinette, nous on peut utiliser à peu près n'importe quelle trottinette qu'on trouve qui est adaptée bien sûr à Sharing. Donc c'est pas des trottinettes qu'on trouve chez Fnac, ce sont des trottinettes robustes faites pour le partage. C'est pas des mêmes matériaux, c'est pas la même durée de vie.
Et donc grâce à ça, vous avez moins de vandalisme?
Tout à fait. Donc, si on compare, vraiment, je veux parler, c'était un de nos premiers réseaux quand on a lancé, c'était à Saint-Denis. Donc, Saint-Denis dans le 93. Et c'était avec SNCF. Et moi, je disais, c'est un quartier très sympa autour du Stade de France. Il y a des arrivées de RERB, RERC, il y a le métro de Paris. Donc, c'est encore un quartier relativement safe. C'est un quartier d'affaires. Et je dis, mais SNCF, mais pourquoi on va lancer à Saint-Denis? Vous savez, si vous survivez ici, ça va fonctionner partout. Parce qu'il y a justement, il y a quelques années, Vélib, donc les stations de vélos parisiennes qui installaient leur service là-bas, et ils se sont fait voler 300 vélos en une semaine. Donc il y a 300 vélos qui sont disparus. Donc pour nous, c'était vraiment un test de voir.
Ça fait peur.
Ça fait super peur. Et tu dis, mince, est-ce que ça va rester encore là jusqu'à la fin de la semaine? Et finalement, ça nous a bien permis de tester le système parce qu'il y a beaucoup de gens ingénieux avec beaucoup de créativité là-bas, qui trouvent quand même des moyens comment voler le véhicule. Donc aussi, grâce à eux, on a pu évoluer, changer le système, adapter les nouveaux lockers, tester et finalement arriver aujourd'hui sur nos réseaux. Ça dépend où. Donc c'est vraiment le taux de vandalisme, ça dépend de l'endroit. Mais on est à moins de 2% de vandalisme, tandis que pour les trottinettes en flotte libre ou véhicules en flotte libre, en général, on est plus à 7 à 15% du vandalisme. Donc, ça dépend encore une fois où. Si je prends Marseille, c'est plus élevé. Mais à Strasbourg, c'est très raisonnable.
Ça va.
Oui.
Parce que sans plus, de toute façon, sans vol de vélo ici.
Ouais, c'est ça. C'est bon, plus vol de vélo, plus vol de vélo de particulier aussi peut-être. Ensuite, c'est aussi l'avantage d'avoir les stations. Bon, la personne qui veut voler une trottinette au début,
Mais là, même
il est
pas.
pas au courant. En gros, pour prendre la trottinette de la station, il faut l'application. Donc, tu déverrouilles la trottinette. Donc, ça, c'est l'utilisateur normal. Si tu la rends pas, il y a une caution. Donc, ça c'est on laisse du côté utilisateur. Donc, ensuite, il y a des personnes mal intentionnées. S'ils volent la trottinette de la station, en fait, la trottinette, elle peut être rechargée qu'avec la station. Donc, à la fin, ils se retrouvent avec un bout de métal
Ah oui.
qui n'est pas rechargeable, qui en plus, avec le module IoT géolocalisable, on peut le traquer. Ça sert absolument à rien voler. Après, il suffit que quelqu'un ait essayé un volet 5 ou 6, c'est déjà un impact économique important pour une petite structure. Donc, on essaie de communiquer dessus, ne volez pas les trottinettes, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas les recharger ensuite.
Ça, c'est une bonne idée. Comment vous avez eu cette idée? Vous êtes inspiré d'un modèle ou vous êtes dit en cherchant, en creusant, que vous allez mettre ça?
Bah, en cherchant, bah, quand on travaille avec les producteurs de trottinettes, eux d'habitude, ils fournissent le système où tu as deux points de charge. Donc tu as l'arrivée de charge sur la batterie. Et donc tu as le trou, le connecteur, tu peux charger la trottinette. Et donc nous, en communiquant avec eux, on a dit, mais nous, ça, on n'a pas besoin. De toute façon, on va charger toute notre trottinette sur la station. Enlevez-le, ça va réduire le coût du matériel, donc ça enlève les pièces qui ne sont pas nécessaires à la production. En même temps, pour nous, c'est une sécurité complémentaire pour les ingénieurs.
Oui, parce que genre Vélib, j'ai déjà vu des photos de Vélib en Afrique. Donc ça veut dire que vu que c'est pas des vélos électriques, enfin je sais, tu payes, tu prends et
C'est ça. C'est
tu pars.
à peu près ça, oui. C'est
Et
ce qui se passe. Ouais, donc pour vélo électrique, c'est pour la trottinette mécanique, t'as pas cette contrainte, donc tu peux toujours rouler la trottinette
voilà.
mécanique
Que
s'il
là
n'y a
t'as la
pas.
contrainte, t'as l'obligation de le ramener, le Vélib, tu t'en fous, il y a pas de moteur, ce moteur c'est tes jambes donc ça va.
C'est ça. Bah, c'est donc juste la caution qui peut protéger, par exemple, les vélos mécaniques. Les vélos mécaniques, c'est que la caution qui les protège. Il faut aussi créer une certaine abondance de véhicules. C'est le premier, je crois que c'était le premier réseau de vélos partagés qui était lancé. C'était dans les années 60. C'était en Hollande, à Amsterdam. Ça s'appelle Lutz Schimmelpenninck. C'est la personne qui a inventé en fait le partage de vélos. Et ce qu'il a fait avec ses potes, ils ont trouvé quelques centaines de vélos. Ramassés, associations, Emmaüs hollandais, etc. Ils les ont peints en blanc, ils ont mis à disposition partout dans la ville, gratuitement. C'est vraiment, ils ont créé, ils ont inventé le concept de partage et ça fonctionnait super bien. C'était un vélo gratuit que tu attachais pas, que tout le monde pouvait prendre et laisser n'importe où. En gros, il était vraiment visionnaire dans le domaine. Mais effectivement, un jour ou l'autre, bon, si le vélo est gratuit, il est à disposition facilement, tu vas pas le voler. Ça sert à rien de le voler et ramener quelque part. Donc, bon. Pour les Vélib, voler et arriver à Maroc, c'est un peu une autre histoire
En
encore.
plus, je me dis, à cette époque-là, il n'y avait pas les applications, il n'y avait pas toute l'avancée informatique qui existe. Il a essayé de voir si ça marchait, les gens, ils
C'est
étaient
vrai.
intéressés. En
Et
plus,
ça a
en Hollande,
marché.
c'est vraiment le pays du vélo, quoi.
Bah oui, il a testé, mais il a inspiré ensuite. Bah, tous les systèmes aujourd'hui, ils sont inspirés par ce premier test.
Est-ce que c'est pas l'Allemagne qui a lancé l'idée des trottinettes, justement,
Alors, les
partagées?
premières trottinettes, bah, si on ne prend pas en compte nos trottinettes mécaniques sur les stations, parce que c'est un peu une autre histoire. La première, je crois que la première, c'était Bird, et c'était en Californie, à Santa Monica.
Ah oui, c'est
Donc,
tombé,
c'est eux
ok.
qui ont fait le premier test. Là, ça fonctionne. Ça, c'est typiquement une idée de start-up qui est sur le papier. Même pas seulement sur le papier, il est génial parce que tu achètes les trottinettes qui sont pas chères. Donc à l'époque, ils ont commencé avec les trottinettes, je dis pas jetables, mais vraiment matériel qui n'était pas de super bonne qualité, pour une simple raison que le matériel de bonne qualité, ça n'existait pas encore. Il n'y a personne qui a pensé faire une trottinette robuste. Donc ils ont pris les trottinettes pas chères, à 300 $ l'unité, ils ont acheté des containers en Chine, ils les ont ramenés. Ils ont branché la puce GPS sur la trottinette, mis en place l'application et c'est parti. Donc si on fait le calcul vraiment en calcul Excel rapide, chaque trottinette, elle peut générer 10-15 euros par jour. La trottinette qui coûte 300 euros, c'est en un mois, tu as remboursé le prix d'investissement. Donc il y a en plus, il y a des frais d'opérationnel, etc. qui se rajoutent. Mais c'est génial, c'est ça la beauté de l'unit economics. Sauf que derrière, certaines trottinettes ne tenaient pas 30 jours. Après, il faut payer l'opérationnel, après, il faut payer le rechargement. Et à la fin, ils galèrent quand même toujours pour trouver la rentabilité.
Je sais qu'à Strasbourg, ça a été compliqué, le soutien a été compliqué de la ville, tu m'avais dit.
En fait, la ville de Strasbourg, c'est la ville de vélo, ça on le sait. C'est vraiment le vélo et le roi ici, ce qui est bien, parce que dans tous les cas, pour nous, c'est une bonne cause. On est tous sur le vélo. D'ailleurs, on fournit aussi les systèmes de vélo en libre-service depuis quelques temps. Donc, effectivement, la mise en place de trottinettes n'était pas très bien vue, parce que ça crée... Déjà, entre les vélos et les piétons à Strasbourg, on voit beaucoup de conflits d'usage. Donc, les pistes cyclables qui passent sur la route, roulent pas sur le trottoir, ça, on voit qu'il y a des clashs. Il y a aussi pas beaucoup de respect de la part des voitures envers les vélos. Donc, rajouter encore la trottinette en libre-service dans cette équation, par exemple à la hauteur de Paris. Donc, si on prend la ville comme Strasbourg, pour bien équiper la ville, pour que la ville soit vraiment bien fournie en trottinettes en libre-service, il faudrait 800 000 trottinettes. Donc, c'est pas énorme parce que c'est pas une grande ville, mais 1 000 trottinettes rajoutées maintenant dans les rues, ça aurait créé un peu le sort de chaos. Donc, quelque part, la ville c'était assez intelligent de dire on ne veut pas voir ça tout de suite. On veut pas avoir des systèmes en flotte libre, des trottinettes qui traînent partout. On veut pas avoir ce cauchemar qu'on voit dans d'autres villes. Donc c'était assez intelligent de tempérer ça. Ensuite, pour nous, on a commencé à l'époque avec les trottinettes mécaniques. Donc c'était pas vraiment le même produit. C'était assez simple à mettre en place. On a fait avec le premier partenaire, ce qui reste toujours notre partenaire historique à Strasbourg Parcus, le réseau de trottinettes mécaniques qui a quand même fonctionné 2 ans. Sauf qu'encore une fois, les trottinettes mécaniques, les gens sont trop fainéants pour les utiliser. C'est surtout ça la raison. Et aujourd'hui, enfin, il y a 2 mois, on a installé le premier réseau de trottinettes électriques, toujours avec Parcus, et toujours en sachant qu'on ne met pas les trottinettes ni stations de trottinettes sur le foncier public. Donc on n'est que sur le foncier privé. On travaille donc avec les espaces de parking, aussi avec toutes les entreprises qui souhaitent apporter une solution de mobilité aux salariés et aux clients. Donc demain, n'importe quelle entreprise, restaurant, hôtel, ils peuvent venir chez nous, avoir une station complémentaire. Avec ça, aider à faire grandir le réseau, donc avoir plus de personnes qui utilisent ce type de réseau. Et derrière, ça reste un réseau qui n'est pas public, qui est quand même géré par les privés, pour les privés.
Ça n'a pas été compliqué d'aller vers des grands groupes, faire des partenariats avec la SNCF? Je me dis, Parcus, c'est quand même des gros, il ne faut pas avoir peur.
Ouais, faut être ignorant. Ouais. Avec SNCF, les deux premiers gros contrats qui ont, justement, c'est grâce à ça que Knot existe, c'était SNCF et c'était Société du Grand Paris. Donc on a fait notre petit passage d'accélération à New York, on est revenu, on n'avait toujours pas de produit. Et on a fait on a vu, il y avait un appel à projet par la Société du Grand Paris pour les solutions autour des chantiers. Donc Société Grand Paris, c'est la société qui fait des gros travaux dans la deuxième, troisième couronne de Paris, avec énormément de choses à mettre en place, les métros, les routes, etc. Et c'était un appel à projet pour dire, voilà, c'est pénible pour les habitants qui sont là, il faut qu'on trouve d'autres solutions pour les aider à passer cette période, offrez-nous vos solutions. Donc nous, on répond à cet appel, on est appelé pour le jury, pour la présentation finale, on arrive là, et on était la seule boîte qui est passée sans le consortium. Donc vraiment une boîte, une petite PME. Et en face de nous, on avait des unions genre Vinci, Engie et compagnie, des gros boîtes qui ont aussi répondu à ce même appel à projet pour une somme en plus ridicule. C'est vraiment... Pour eux, c'était pour avoir la place pour présenter la solution pour Société de Grand Paris. Pour nous, c'était juste une opportunité de démarrer quelque chose. Et donc nous, avec nos petits croquis, notre première image de la station aux trottinettes, on a réussi à remporter ça. Donc ça, c'était vraiment le tout début. Et je crois que suite à ça, on a eu quelques articles de presse et SNCF est venu nous voir eux-mêmes. Donc c'est la personne, chef de projet des SNCF, qui reste le meilleur chef de projet avec qui on a travaillé, qui nous a appelé, qui nous a dit, bah, c'est génial, j'aimerais bien aussi mettre ça avec SNCF, et avant que la société de Grand Paris les mette.
Ouais, ça doit être fou d'avoir quelqu'un comme ça qui t'appelle et te dit, ok, bon, on y va.
C'est ça, on y va. Et là, il faut pas... Non, en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, les premières stations et les trottinettes qu'on a installées, notamment à Saint-Denis avec SNCF, mais c'était le proto. On a reçu la décision, on a reçu le premier moitié de paiement. On a eu suffisamment de fonds pour lancer un peu la production, mais on n'avait encore rien à l'époque. On avait limite juste les dessins techniques. On n'avait pas d'électronicien, pas d'ingénieur méca dans l'équipe. On avait juste deux développeurs qui faisaient la partie app. Et c'est là, on fait, ah mince, dans 3 mois, il faut installer quelque chose à Paris. Il faut mettre 60 trottinettes, 5 stations. On n'a pas encore les plans finis. Là, c'était vraiment la période chaude. Les développeurs, ils sont toujours là dans l'équipe. Je ne sais même pas pourquoi, les pauvres, parce qu'ils aidaient à assembler les trottinettes les nuits. Donc les dernières, pas un mois avant l'installation, on était tous à l'atelier à faire un peu de mécanique, serrer les vis, assembler les choses. Et c'est la toute première station, le tout premier proto était installé à Saint-Denis en face du Stade de France. Et on avait super peur parce que tu mets le matériel à disposition du grand public. Donc tout peut arriver, t'as pas encore bien testé ton matériel, c'est du hardware. C'est des trottinettes pareil qu'on a produit nous-mêmes, à l'époque on faisait nos trottinettes. Comment ça va marcher, comment ça va durer, il faut vraiment pas être net pour y aller aujourd'hui.
Ah, tu trouves que c'est fou maintenant, ce que t'as
fait ? Non, mais aujourd'hui c'est complètement fou. Aujourd'hui je me dis, mais ça serait jamais de la vie, j'aurais eu trop peur parce que à l'époque on se posait même pas les questions. Allez, matériel électrique, il y a quelqu'un dans les journalistes, il y a le lancement du système, il y avait le président de SNCF, tout cela. Quelqu'un de journaliste pose la question, ils étaient sur les panneaux solaires, les stations. Et s'il y a un orage, est-ce qu'un orage, ça peut faire quelque chose à la station ? On se regarde. Ouais, peut-être. J'ai jamais pensé à ça. T'as des questions, mais t'as juste pas le temps de poser toutes ces questions-là. Et à la fin, ça a fonctionné. Bon, il y a les démos, comme c'était la première station qui était installée juste la veille, qui n'était pas encore testée. Je vois mes développeurs, ils font, ne fais pas la démo sur l'emplacement numéro 16, elle fonctionne pas. Donc tu vois, tu te déplaces tout doucement vers un autre emplacement pour montrer le système.
En fait, c'est une aventure de dingue.
Ouais, c'était une aventure de dingue. C'était...
Mais je pense que c'est le recul que tu as maintenant et tout l'apprentissage que peut-être ça te mettrait des freins.
Oui.
Parce que maintenant tu sais ce que c'est, les enjeux, et alors, au début tu te dis, ouais, mais c'est un projet, c'est trop bien, on s'en fout.
Mais ce qui nous a aidé beaucoup, c'est que personne ne faisait les trottinettes en libre service, donc ça passait vraiment dans la petite trappe de allez, c'est un coup innovation, limite du greenwashing pour les grands groupes, on peut jouer un peu là-dessus, personne ne l'a fait, c'est cool, c'est sympa, c'est pas trop cher. Donc ça nous a beaucoup aidé que ça n'existait pas encore, on était les premiers à tester ce genre de système.
Et avant ça, tu voulais entreprendre ou pas du tout ?
Avant, on a essayé. J'ai fait X startup week-end à chaque fois avec une idée plus folle que d'autres. Il y avait une boîte qu'on a même créée après un startup week-end qui n'a pas tenu longtemps. Et avant ça, j'étais encore. J'ai commencé avec l'entrepreneuriat déjà à Saint-Pétersbourg. On faisait des petits tours. C'était au lycée et on vendait. Bon, je ne sais pas si c'est légal en France.
C'est non, légal en Russie, c'est non, bon.
On vendait pas de drogue aux enfants, non. C'était, on vendait des tours. En fait, on appelait. On voulait joindre le monde professionnel et le monde des enfants. Donc, en Russie, la maternelle, collège et lycée, c'est le même endroit. C'est le même. Tu rentres à l'école, tu sors quand t'as 16 ans, ça y est, t'as fini. Donc, on avait vraiment toute cette masse des petits qui arrivaient tous les ans. Et avec des amis, on a lancé un concept de. Pas de voyage industriel, mais en gros, avec 10-15 enfants, les classes, on les ramenait chez les industriels, chez Chupa Chups, chez les chocolatiers, chez les garages auto, pour montrer à quoi ça ressemble le monde pro. En gros, c'est les parents qui nous payaient. Donc, c'est pas légal en France, parce que je sais pas si des lycéens peuvent lancer ça sans accompagnement, sans des adultes. Bon, ça a fonctionné.
Voilà, vous étiez jeune, vous avez testé quelque chose.
C'est ça, ça a bien marché, il y a personne qui est mort, personne qui s'est fait couper le bras dans une usine, donc c'est bon.
Et justement, je me dis, tu viens de Russie alors ?
Oui, je suis de Saint-Pétersbourg.
Ça doit être tellement beau. Et c'est quoi la différence entre les Russes et les Français au niveau de l'entrepreneuriat ?
C'est peut-être un peu plus machiste, la Russie, peut-être. Encore que la France,
ouais, y a aussi
assez.
On a notre bagage aussi. Hein.
Il y a la différence, beaucoup de différences culturelles, les petites différences que tu ne remarques pas au début, que je ne remarquais même pas, je ne me rendais pas compte. Par exemple, maintenant, on commence beaucoup à travailler aussi avec la Russie, avec l'Europe de l'Est et aussi avec l'Asie centrale comme Ouzbékistan et Kazakhstan. Mais ce n'est pas du tout les mêmes codes business, d'approche. Ils sont toujours dans l'urgence. En gros, ils peuvent t'appeler dimanche à 8h du matin, ils vont t'appeler à minuit, en sachant qu'il y a 5 heures de différence quand même. C'était justement le client d'Ouzbékistan. Donc ils ont 5 heures en plus, donc ils l'appellent à 5 heures du matin pour poser des questions. Il y a beaucoup de... Bon, ça se passe toujours par WhatsApp, ça je sais pas pourquoi. Soit WhatsApp, soit Telegram. Le mail, c'est pas tellement dans les codes. Et bon, après, comme partout, c'est le contact direct, c'est très important. Donc tant que t'es pas allé dans le resto, tant que t'as pas bu un verre, tant que t'as pas, je sais pas, fait un petit voyage avec, tu vas pas signer un contrat. Et donc bon, après, ce qui est aussi très important, c'est la langue. Donc si tu pars pas russe, bah tu vois rien.
Ah oui, même pas anglais.
Non, bon, j'ai pas essayé parce que je parle
oui,
russe.
Oui, non, mais après tu peux savoir toi que le russe
c'est très compliqué. Mais après, en même temps, je me dis, en France, imaginons la ville de Strasbourg achète quelque chose dans une boîte complètement anglophone. Pareil, j'ai du mal à voir cette situation. Donc je me dis, c'est pas tellement peut-être la Russie, mais c'est quand même plus agréable de travailler en sa langue.
À Paris, ça passe plus.
Peut-être, ouais. Bon, en Espagne, en tout cas, par exemple, en Espagne, on a maintenant un bizdev qui est concentré 100% sur l'Espagne. Bah, lui, il est... Sans lui, on n'avait pas de contrat espagnol.
C'est ça, il faut avoir la logique, en fait. Et même comprendre ces pays pour y rentrer. Donc là, toi... Le Covid, ça t'a ralenti sur ton expansion?
Ah oui, tout à fait. On a fait une année dégueulasse. On avait prévu, 2020, on avait prévu plein de super choses. Mais déjà, le premier confinement, ça a très mal tombé parce qu'on a juste fini vendre le dernier stock de la version 4 du système. Donc maintenant, on est sur la génération 5. Et la génération 5, elle devait partir en production. Sauf que là, c'est le moment où toutes les usines ferment, où tout ferme. Donc on a pris 4 à 5 mois de retard dans la prod pour avoir le proto. Donc on n'avait même pas le produit à vendre pendant 4 ou 5 mois. Donc quand je dis qu'on n'avait pas de produit à vendre, bien sûr on avait les plans, bien sûr on est juste revenu en arrière un peu quand on avait la toute première génération à vendre sur papier un produit qui n'existe pas encore. Donc ça a eu un impact important. Et puis beaucoup de clients, surtout dans le public, même ceux qui ont déjà signé le contrat, ils ont dit « Ah non, on ne peut pas à cause du Covid, on a d'autres priorités, on va annuler le contrat ». Donc ça a beaucoup ralenti. Et puis pour les déplacements, c'était pas sympa non plus.
Et t'as vécu comment alors cette période? Enfin, je te trouve assez, tu vois, hyper souriante, pétillante quand on parle, ça va, je vois que t'as passé au-dessus.
Non, mais c'est les conséquences, on va les avoir maintenant quand on va avoir le bilan. Donc c'est peut-être ici, on a un
repas. Que ça va faire mal.
Là, ça va faire mal. Ça va être bon. Il faut remplir les banquiers, il faut revoir tout. Non, c'est.
Les comptables, non, ça va.
Les comptables, on va trouver quelque chose, on fait quelque chose.
Tu peux pas mettre un zéro en moins ou un truc.
À peu près, non, c'est ce qui était dur. Après, ce qui est dur personnellement pour moi, c'est la partie télétravail. Donc moi j'aime beaucoup l'esprit d'équipe, j'aime bien la communication qui se crée quand il y a plusieurs personnes dans la chambre. Même si je sais que mes développeurs, certains étaient super heureux de rester à la maison parce qu'ils sont introvertis, limite ça, c'était génial. Mais ne pas avoir tous les jours l'équipe de communiquer, ça fait quand même avancer, ça ralentit le projet, ça ralentit la réflexion. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des problèmes électromécaniques ou sur l'application qui se créent juste parce qu'on n'a pas communiqué. Ok, c'est génial, Slack, Zoom, télétravail, c'est super, mais non, c'est pas, ça manque un petit côté humain qui, en tout cas, moi, j'ai beaucoup souffert avec ça. Je ne peux pas dire souffert, mais si.
Aussi, il y en a beaucoup. Hein.
Donc aujourd'hui, bon, on a trouvé des arrangements, donc on fait des roulements et ils ont tous compris que j'en ai besoin. Ça, ils sont maintenant conscients.
Donc là, tu restes sur place et eux, ils roulent. Est-ce que tu vas peut-être justement donner plus de liberté pour prendre des travail à distance, qu'il y aura un jour par semaine, ou tu préfères quand même qu'il y a tout le monde qui vienne quand... après Covid hein.
Ouais, après, nous, on était toujours très flexibles sur ces arrangements-là. Donc, si quelqu'un veut faire du télétravail, c'était toujours prévu. Mais au moins, avoir de la présence quelques jours par semaine, 2-3 jours par semaine, on peut se réunir, on peut parler, on peut manger des lasagnes. Ça, il faut faire. Ça, c'est important.
Mais pour l'esprit d'équipe, c'est mieux.
Ouais, pour l'esprit d'équipe. Bon, après, on a une personne qui a qui était toujours à distanciel, donc il habite en Belgique, donc ça, de toute façon, c'était toujours comme ça pour lui. Et on a cette expérience-là et ça peut très bien fonctionner, mais ça dépend des fonctions, ça dépend des personnes. Pour l'équipe business, peut-être c'est plus simple, enfin c'est ce que je crois. Pour l'équipe technique, nous, on a ressenti un ralentissement causé par Covid.
Mais ça va plus vite quand il y a tout le monde, au moins.
C'est ça.
Parce que si tu dois appeler, attends, on fait un zoom et tout, voilà.
C'est ça. Non, mais c'est vraiment... Et quelqu'un peut... En fait, c'est aussi c'est la création d'idées, c'est l'idéation. Donc, quand on échange sur un sujet, je sais pas, je parle d'un site web, de nouvelles fonctionnalités avec développeurs qui concernaient, il y a d'autres qui l'entendent quand même, peuvent donner des idées. Ce qui n'aurait pas arrivé s'ils n'étaient pas là dans la même salle. Donc, c'est ça, c'est typiquement ça ce qui se produit.
Mais là, ils ont eu des gros coups de boost parce qu'ils ont perdu confiance en eux aussi dans leur travail. Donc, c'est pour ça que Spread Group, c'est tellement mieux. En plus, une start-up qui passe par des hauts et des bas, si on n'est pas ensemble pour avancer.
C'est là, ça crée. C'est vraiment, c'est pas cool.
Ouais, justement, c'est ça que d'avoir toujours la vision de ça va bien se passer. Il y a des moments où tu dis ça va pas le faire. Tu t'es dit en 2020 on va mourir.
Bah, en fait c'était au février 2020, on s'est dit, c'était avant le lancement de la cinquième système, on s'est fixé un objectif, on a dit on va faire tant de chiffres d'affaires, tant de stations vendues. Si on n'y arrive pas, on arrête, on trouve à qui revendre la techno et c'est fini. Sauf que 2020 ça a tout changé, donc là tout est décalé, mais il y avait des moments où tu dis mais pourquoi je fais ça, mais j'en ai marre, je suis fatiguée, je sais pas comment payer les salaires, il y a toujours un coût qui arrive, on a toujours des contrats qui viennent. Le problème aussi dans notre business model, aujourd'hui dans le business, qu'on n'a pas assez de récurrents, donc d'ici 3, 4, 5 ans ça va être suffisant pour tenir l'équipe et savoir tous les mois il n'y a pas de souci pour payer les salaires. Mais aujourd'hui, on est très dépendant encore de one-shot. Donc, quand on vend le système station, trottinette, application au tout début. Donc, on a encore besoin d'avoir au moins 1, 2, 3 contrats par mois comme ça. Donc, si on ne le fait pas, il faut trouver d'autres solutions, comment s'arranger. Et donc, en sachant que pour certains contrats, il y a ce cycle de vente, il est juste énorme chez nous. Parfois, on met jusqu'à 2 ans pour la signature de contrat. Donc, entre la rencontre, donc j'ai rencontré la personne, on en a parlé, jusqu'à la signature, l'argent sur le compte, il y a 2 ans qui passent. C'est quand même énorme, c'est juste inimaginable. Bon, c'est pour ça, nous on n'est pas vraiment une start-up typique, on est plus dans l'esprit... Déjà on fait du hardware, ce qui pas beaucoup de start-up font du hardware. Ensuite on est dans la mobilité. Mobilité, être une start-up c'est encore plus dur parce qu'il y a la réglementation, c'est vraiment quelque chose de réglementé. Et en plus, on a des cycles de vente énormes. Par exemple, l'an dernier, dans ce genre-là, c'est Arval, le BNP Paribas. Donc, c'est une grande banque qui fait du leasing. On s'est rencontrés sur nos premières stations à Saint-Denis, c'était en 2017. Ben là, on a installé les premières stations chez eux en 2020.
Trois ans.
Ça prend du temps.
Quand tu as un nouveau client, tu te dis, bon, dans 2 ans, si on gère, on le signe.
C'est ça, un prospect, c'est la prospect qui arrive, qui nous envoie un message. Donc aujourd'hui, on a tout automatisé, ça fonctionne plutôt bien, on reçoit 3, 4, 5 demandes par jour. Il y a X%, 90% qui vont tomber, qui ne vont jamais revenir ou qui ne vont pas y arriver. Mais ouais, statistiquement, ces prospects-là aujourd'hui vont se transformer d'ici 1 an, 2 ans.
Je suis sûre que quand tu as monté ça, tu t'es dit on va signer vite et tout, dans les 6 mois, ça va être fait.
Bah, contrat SNCF, on l'a fait en 2 mois. C'était entre la présentation de notre malheureux PowerPoint et l'installation, c'est même pas 6 mois qui sont passés.
Ouais, et tu dis, bon, si on fait tout comme ça, tu peux voir rapidement le chiffre d'affaires qui tombe, etc. Que là, tu dois avoir tellement à long terme, faire un prévisionnel énorme.
Bah, c'est pour ça aussi qu'on maintenant beaucoup on travaille sur le privé, donc travailler avec les entreprises ça va un peu plus vite, encore que ça dépend, les grands groupes ça prend beaucoup de temps quand même, c'est plus simple que le public quand même. Donc au tout début on se disait notre système il est fait pour les villes, on va passer par les appels d'offres, on va répondre, sauf que appel d'offres pour la trottinette on l'atteint toujours 5 ans plus tard. Ça n'existe pas encore, pas vraiment, il y en a, mais il est très très peu. Donc il fallait vraiment s'orienter sur le privé et passer entreprise, besoin pour les salariés, pour les campus, pour les hôpitaux, comment gérer ça.
En fait, vous avez changé plein de fois. Enfin, vous avez une idée, vous avez creusé, vous passez au mécanique, vous êtes passé à l'électrique, ton pitch tu l'as changé. Enfin, il y a beaucoup de monde qui pensent que, tu sais, dès le début, ils ont la bonne idée et ils vont rester dedans.
Ah non, ça arrive jamais, je crois.
c'est fantastique, tu vois. J'ai trouvé l'idée du siècle. Mais en fait, entre l'idée et 5 ans après, je pense que le changement, il a été fait au moins 30 fois.
C'est assez clair. Mais rien, le dernier pivot qu'on a fait, bon, on appelle ça pivot d'ailleurs dans le startup, et c'est tout à fait normal. Donc tu dois changer, tu dois t'adapter le plus vite possible, donc électrique, mécanique. Là, le tout dernier pivot qu'on a fait aussi, c'est, donc au début, on se positionnait comme opérateur, donc on disait, on vous ramène le système de mobilité dans votre ville avec station et trottinette, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a tous les gens qui ont des trottinettes aujourd'hui, parfois ils se posent la question sur la station, ils se disent, bah, j'aimerais bien aussi avoir la station. Est-ce qu'on peut faire une station compatible avec nos systèmes? Donc on a fait, c'est la version génération 5 du système qui est compatible avec n'importe quelle trottinette. Donc demain, si les mecs à Paris, Limebird ou autre, ou n'importe où dans le monde, ils veulent mettre à jour leur système, rajouter les stations pour que les trottinettes soient chargées, pour justement, si on revient à tous les arguments du début de la discussion, donc ils peuvent acheter nos stations. Mm-hmm. Donc c'est la station et le service, et s'il fallait s'adapter sur le côté soft, donc si à la base on fournissait l'application pour déverrouiller la trottinette, maintenant on fournit juste une passerelle API qui se met sur le back-end de l'autre opérateur et donc tout reste sur son application. Donc nous on s'est occupé juste de la station. Ça nous permet aussi d'être un peu plus de facilité à vendre, c'est un produit en plus.
Oui, et même d'avoir des meilleures rentrées d'argent.
C'est ça.
Au moment, il n'y a pas de
choix. Et le dernier, c'est les vélos parce que ça fait un an que tout le monde nous demande du vélo. Bon, okay, on va faire du vélo, d'accord. Donc maintenant, c'est la station de vélo qui sort aussi, vélo et vélo électrique. Pour le coup.
Vélo électrique, ça va être bien ça.
Ouais. Bon, après, moi j'adore le vélo mécanique. Moi, c'est surtout tous les trucs qui existent dans la mobilité, vélo mécanique, ça reste mon favori. Donc moi, je suis super contente. Pareil, on est revenu back to 2016. Je suis de nouveau avec ma présentation, avec le premier proto, en train de dire voilà, ça va être génial, achetez-le sur papier. Et c'est plutôt sympa.
Mais c'est ce qui marche le plus, hein, faut tester son papier. Hein.
C'est vu que nous, on travaille, vélo, c'est plus compliqué parce qu'il y a déjà de la concurrence qui existe. Nous, on vient un peu rentrer sur le marché qui est plus saturé que la trottinette. Donc, il faut avoir des arguments en plus. Donc, soit travailler sur le prix et tout le monde veut voir le produit parce que station vélo, c'est pas du NASA, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est naturel que le client, la ville, il veut d'abord tester avant d'acheter.
Bagelstein, ils ont fait leur sandwich sur papier.
Ouais.
Donc je me dis, on peut tout faire sur papier. Ouais. Quand on peut faire de la nourriture en photo et arriver à vendre ça, tout est possible.
C'est ça, non, mais c'est clair.
Et pour les levées de fonds, c'est toi qui t'en occupes ou c'est Arthur?
Parfois moi, parfois Arthur.
Vous avez fait des belles levées de fonds, hein, quand même.
On est trop mauvais.
Ah ouais, pas bon pour toi?
On est super mauvais.
Enfin, j'ai vu un article. 1 million, il y en a qui mettent des mois et des mois pour ça, enfin des années pour ça.
Trop mauvais, non, oh. Mais c'est...
Moi, je vois des zéros pour moi.
Parfois, les journalistes, ils en parlent, mais réalité, non, mais on a pas fait de levée. On fait des petits trucs, mais ça compte pas. C'est un peu le running gag, je pense, à Strasbourg Tartab, le CNOT qui... On a des dîners Strasbourg Tartab, donc c'est quand on se réunit parler entre les entrepreneurs. Et à chaque fois, qu'est-ce qui est arrivé le dernier mois? Knot cherche toujours à lever de l'argent. C'est plutôt ça. Donc là, on a vraiment fait le développement dans les belles traditions d'une PME. Donc on trouve un client. Ce client nous permet de financer le développement technique, l'équipe, l'opérationnel. Ensuite, on trouve un nouveau client, et c'est comme ça qu'on se développe. Ça ne permet pas d'aller vite et de faire vraiment une belle avancée. Mais ça permet de vivre et de payer 10 personnes.
Je crois que vous aviez levé 1 million et tout.
On devrait. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup.
C'est le désir.
Vous entendez.
C'est fou. Et c'est quoi qui marche pas? Genre, les investisseurs ne sont pas bien. Tu n'as pas le temps d'aller à Paris. Enfin...
C'est la combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, c'est le fait qu'on fait du hardware. Donc on va toujours avoir le blocage, on ne pourra pas faire le x100, on ne peut pas promettre le x10, x100 l'année prochaine parce qu'il y a la production, il y a les contraintes de la production, il y a les contraintes d'installation, on est très vite limité sur cette partie-là. Donc il y a aussi, et en plus on ne fait pas de l'unité économique comme Bird ou Lime, donc on n'est pas dans le même cas de figure. Et beaucoup, la majorité quand même de fonds s'est orientée plus sur le numérique, plus sur la tech, ce genre de choses. On a la combinaison qui plaît pas toujours. On est dans l'industrie qui est sexy, mais en même temps, on était aussi un peu trop tôt quand on a proposé le projet de trottinette. À l'époque, personne ne croyait, personne disait trottinette, ça sert à rien. Donc on a un peu raté la marche là-dessus. Et sinon, je pense aussi qu'on n'est pas tout à fait clair, et ça c'est quelque chose où on doit se trouver encore, c'est le go-to-market, c'est là où on dit comment on va scaler, comment on va passer de 50 réseaux installés aujourd'hui à 2000 installés demain. Parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de inbound, donc c'est les clients qui viennent nous voir, et puis qui nous trouvent parce qu'on fait pub, pas pub, mais articles, etc. Mais comment faire que demain, nous, on trouve la manière de générer les leads bien plus scalables? Et c'est là, je pense, que ça peut manquer aux investisseurs. Mais sinon, je pense que plus directement, on est juste mauvais à faire ça.
Non mais
C'est pour ça qu'on n'a toujours pas levé de fonds.
après il y en a qui font pas de levée de fonds.
C'est ça. Ça peut être une philosophie, mais vu qu'on annonce souvent qu'on le cherche, je ne veux pas le dire. Non, mais ça peut être aussi, parfois tu te dis, c'est quand même, de l'autre côté, c'est aussi une bonne chose parce que tu as la liberté totale sur la gestion de l'entreprise. Il n'y a personne qui peut te dire comment prendre telle ou telle décision. Bon, parfois tu te sens un peu seul dans la prise de la décision, mais il y a des plus et des moins. Mais bon, les moins, ils sont quand même plus importants pour le tout début de création.
Bah, je me dis, depuis 2016, on n'est pas vraiment fait et vous tournez encore, ça va
C'est ça, c'est un peu
quoi.
ça.
C'est ça le plus important. Donc demain, si tu up A, 1, 3, si tu up pas, c'était dur à prononcer, c'est pas grave. Si toi, tu te contenterais d'être une PME, ça irait, ou tu veux vraiment être une start-up?
C'est un beau projet, c'est sympa. À l'époque, on prévoyait être beaucoup plus grand, être partout dans le monde entier déjà à cette étape-là. C'est à voir. Dans tous les cas, on a une belle techno qu'on a su développer sans lever de fonds. Quand tu vois qu'il y a des grosses boîtes qui mettent des millions et des millions pour faire des projets similaires à la base de vélo, par exemple, tu fais bon, c'est pas mal. On peut être fier. On a fait un truc qui est installé dans une dizaine de villes, qui fonctionne, les gens l'utilisent, les gens sont contents, et on l'a fait sans passer par l'étape de levée de fonds. C'est quand même sympa.
Sinon, ça dépend tellement de choses. La levée de fonds, je vois quand je parle avec des gens, ils me disent ouais, mais ça dépend de la taille de la boîte, l'accélération. Il y a des boîtes qui font des grandes levées de fonds parce que elles marchent tellement bien, elles décollent tellement vite qu'ils n'ont pas le choix. Et à Strasbourg, faire des levées de fonds, c'est compliqué. Il faut aller à Paris, quoi, au minimum.
Faut aller à Paris,
Ouais. Faut avoir le temps d'y aller. Quand je vois Rémi qui allait pendant
bon,
un an tout le temps.
il y a certains qui font plus de commutes depuis la deuxième couronne à Paris que de venir de Strasbourg à Paris. Donc ça, c'est pas... Ça va, on est encore plutôt bien placé. Mais c'est toute la question du réseau. Pour être introduit aux bons investisseurs, un bon moment. Donc il faut faire les soirées, il faut y rester, faut passer. C'est un projet en soi. Et donc quelque part, ça prend beaucoup de temps. Donc soit tu te consacres aux ventes, soit tu te consacres à la levée. C'est à peu près le même principe derrière. Donc il faut vendre ta boîte, vendre l'idée. Donc c'est du temps.
Oui, parce que justement Rémi m'avait dit que pendant un an il était à Paris à faire des allers-retours, mais ça avait l'air très fatigant. Il s'est appris des remarques, voilà. Mais c'est le jeu en fait, hein.
Ça permet aussi de changer, d'avancer, parce que c'est justement grâce à ces remarques, même si à la fin tu n'arrives pas à la lever, il y a beaucoup de bonnes idées qui arrivent aussi. C'est surtout, il faut le chercher, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui font même pas de follow-up, qui font même pas de feedback. Tu fais un pitch, ils te répondent rien. Il y a ceux qui répondent, ah, aujourd'hui ça colle pas avec nos objectifs d'investissement, donc faut prendre le téléphone, faut appeler, faut dire mais c'est quoi le problème, expliquez-nous, comme ça on peut au moins changer, trouver un autre moyen, pas pour la lever aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus sexy pour les investisseurs. Et là, ça aide énormément.
Donc peut-être qu'un jour vous allez trouver le...
C'est ça.
Même pour vous, hein, même pour avancer, c'est tellement plus facile d'avoir... Enfin, on a le truc et...
Bah, après, ouais, ça serait. Je me dis, ça serait génial. Je me dis, aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est super, tu as des fonds, tu peux avancer, mais ça s'épuise aussi rapidement. Donc, il faut le mettre aussi par rapport à la stratégie par la suite. Est-ce qu'il faut relever ensuite? Ou est-ce que cette levée sera suffisante pour après arriver à un niveau un plateau où tu vas être content, tu vas être rentable et avoir générer suffisamment de chiffre d'affaires pour se développer encore plus, ou bien tu vas recommencer le process de lever, relever de l'argent pour y arriver.
Mmh. Plein de questions encore à se poser. Et moi, je veux savoir, quel est ton plus grand défaut ?
Plus grand défaut, ben je... Ouais, il y en a plein.
Non,
il faut choisir le plus grand. Allez, on peut dire que c'est... Ouais, c'est... Je sais très bien ce que je veux, où je veux arriver, et je sais faire chier les gens qui me détestent à la fin. Ceux qui travaillent avec moi, c'est pas évident. Je les embête beaucoup. Je les fais pas pleurer, mais je suis dure en ouais. communication. Donc RH, c'est pas mon point fort. C'est...
C'est vrai que t'es pas RH. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, c'est... Faut y aller.
C'est ça, non, mais c'est surtout que j'ai une vision. Après, il y a aussi des points de communication qui peuvent être bloquants. Je suis pas française, donc au début, maintenant, c'est encore amélioré. Je sais comment mieux gérer
les
différences linguistiques et culturelles.
L'attitude française n'est pas l'attitude russe, hein. Genre, on est franc, mais quand même, on a un peu plus peur.
C'est ça, bon, c'est ça, c'est un peu la... C'est quand tu dis à quelqu'un qu'il a mal fait son travail, souvent les gens le prennent trop personnellement. Ils se disent c'est moi, j'ai merdé, tout va mal. Mais non, en fait, c'est le travail que tu as fait, c'est merdique, mais c'est pas toi. C'est juste, ne prends pas personnellement, lève-toi, va corriger ce que tu as fait. Et c'est là où on peut dire qu'il y a un souci. Bah, sinon, il y a.
Ça suffit. Mais je me dis, tu vois, si tes deux développeurs du début sont encore là, c'est-à-dire que tu les maltraites pas trop.
Ah non, mais ça, c'est l'actif précieux de la boîte. C'est là, elles sont surgâtées.
Il ouais, faut les chouchouter. Mais ouais, donc ça veut dire que ça va. Et après, les gens, ils apprennent à savoir comment tu marches. Et...
C'est ça. Après aussi, il y a des choses où je ne veux pas trop m'investir parce que c'est pas du tout, j'ai pas de connaissances. C'est pour ça qu'ils sont là, pour faire la partie de développement technique. Bah, moi, je ne saurais pas le faire. Et heureusement, sinon, on n'avancerait pas. Donc, il y a des moments où je lâche et je laisse les autres gérer.
Qu'est-ce que tu détestes faire, justement, dans ta boîte ?
Ça va pas être trop créatif, la partie administrative, mais je pense qu'il y a très, très peu de gens qui l'aiment. Pour trouver les gens qui l'adorent,
C'est clé secrétaire.
C'est génial. Il y a des personnes qui adorent ça et j'ai une admiration. Il y a une certaine rigidité, vraiment, l'amour pour ça, c'est
une rigidité à la française aussi, de tous les papiers qu'on a à faire.
C'est ça. Bah, c'est la gestion de derrière, bah, un peu bureaucratie. Ça fait du bien, ça fait de l'ordre.
Ouais, mais tu vois, je me dis, est-ce qu'en Russie c'est pareil ? Est-ce que c'est tous les pays du monde, l'Amérique, qui sont aussi très papier, ou c'est vraiment français qu'on aime ?
C'est partout.
C'est quand même partout, c'est l'Espagne, partout. Ouais, partout.
C'est partout, non.
Ah bah ça me rassure, parce que tout le monde dit « Ouais, c'est en France, c'est tout. »
Là, maintenant, il y a plein d'outils qui existent aussi pour améliorer cette partie-là, donc c'est pas le plus compliqué. À l'époque, au début, moi, j'avais vraiment du mal à prendre le téléphone. Ça, c'était super dur pour moi. Il fallait appeler, il fallait, pour le démarchage, autre chose, c'est vraiment... C'était affreux. Je me forçais chaque fois. Maintenant, ça va, c'est quelque chose où j'ai réussi
à
démarcher les clients, d'appeler, faire les appels froids, ça va, ça me fait pas peur.
Bah, c'est ce qui marche en plus assez bien.
Ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend, il y a des petites techniques, il faut travailler, il faut avoir son pitch, ça fonctionne. J'ai une petite expérience de vendre les contrats d'assurance à froid au privé, en B2C, et c'est là où tu dis, c'était super stressant. Et très, très vite, tu comprends, par exemple, bah, c'était en Russie encore, il ne faut pas appeler les femmes sont plus méchantes. Et il faut...
En Russie ou en France ?
Oui, c'était en Russie, à vendre les contrats d'assurance. Donc les filles, quand ils entendaient les filles qui vendent les contrats d'assurance, c'était vraiment très compliqué, donc j'appelais que les hommes. Il fallait maîtriser la voix, il fallait parler plus bas, plus doux, tu travailles vraiment, il y a des techniques et une épée qui aident aussi à mieux gérer cette partie-là.
Et en France ? Les mêmes techniques ou pas besoin ?
Moi, j'ai plus de problème avec les femmes. Ça va de mieux en mieux, mais j'ai toujours un petit frein au niveau linguistique. Je me dis, ça s'entend quand même, je suis pas française, j'ai un accent, je peux faire une faute. Ça va mieux. J'ai pas du tout ce problème en anglais. Par exemple, de marchage en anglais, j'ai aucun souci sur l'anglais. Je peux appeler aux États-Unis, ça pose pas de problème. En France, j'ai eu très très longtemps ce blocage dans ma tête. Ils disaient, parce que j'ai un accent, ils ne vont pas me prendre au sérieux.
Oui, ils vont dire, oh, elle vient de quel pays? Non, non, mais je suis à Strasbourg, hein, je vous jure.
C'est ça. J'entends un petit accent, vous êtes d'où? Oui. De Strasbourd.
Je suis sûre qu'à un moment, il y aura des gens qui vont lui faire des remarques.
Oui, c'est tout à fait. Après, c'est... Ouais, je ne sais pas pourquoi, je les prends pas mal, mais ça m'embête un peu. Il m'embête les remarques sur la langue, sur le pays d'où tu viens, mais vous savez, Paulina, est-ce que c'est polonais? Non. Mais en fait, non, il n'y a pas de quoi. C'est normal, c'est aussi la curiosité humaine. Tu dis, tu as quelqu'un en face de toi qui parle plutôt la langue que tu entends, c'est pas la sienne, donc tu te poses des questions quand même. C'est la curiosité, c'est normal.
Mais tu parles très bien français. Hein.
C'est une langue complexe. Bon, moi, j'étais au lycée français à Saint-Pétersbourg. C'est pas moi, c'est ma mère qui a choisi de me mettre là-bas. Donc, c'était pas du tout le choix que j'ai fait. Mais c'est bien. C'est plus de langues, c'est une richesse. Pas pour les ventes, pour la boîte, pour tout.
Et après, tu t'es dit, je vais venir en France?
C'est ça. J'ai fait une partie de mes études en France. Donc, j'étais à Strasbourg, justement. Okay, et j'aime bien. Et j'ai créé la première boîte. J'ai trouvé un job. Puis, j'avais pas d'attache particulière avec la Russie non plus. Donc, c'est sympa. J'aime bien ici.
Et t'as trouvé tes attaches ici?
Ouais. Déjà, pour moi, le point clé, c'était parce que j'ai l'horreur du froid. J'ai très mal vécu d'ailleurs ce mois d'avril, mais c'était une des premières raisons pourquoi j'ai quitté Saint-Pétersbourg.
Est-ce qu'il y a une anecdote honteuse ou rigolote que tu as vécue durant tes années d'entrepreneuriat?
Ok, alors c'est pour une histoire rigolote, il y en a eu plein, c'est vraiment, je cherchais un peu un truc qui est aussi légal. Et donc c'est une des bonnes histoires que j'aime bien, c'était, on a créé la boîte il y a peut-être 2-3 semaines, et là je cherche des trucs sur internet, je tombe sur un accélérateur à New York. Donc nous, on est 4 cofondateurs, on n'a encore pas de produit, on a la première présentation. On a créé la boîte juste pour pouvoir déposer le dossier à Deutsche Bahn, donc SNCF française. Donc c'est, en fait, en gros, il n'y a rien qui existe encore. Et je tombe sur cet accélérateur à New York. Je me dis, mais il me le faut, ça fait un moment que je voulais aller à New York en plus. Donc j'ai postulé. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle chance on a été pris. Et donc, 3 semaines après créer la boîte, on est tous partis à New York pour 3 mois. Et vu qu'il n'y a rien qui était encore fait, vu qu'on ne pouvait rien encore vendre, c'était vraiment de très belles vacances, en plus payées par l'accélérateur. Voilà, ouais, c'est un truc
sympa.
C'était encore pour l'ancienne structure, on a eu 60 000 euros qui nous étaient donnés pour accélérer la boîte, mais sans produit, sans l'équipe, sans l'équipe tech, qu'est-ce que t'as accéléré, tu vas aussi essayer. On a quand même sorti avec un petit proto à la fin de l'accélérateur, mais sinon c'était de très très belles vacances. Et ça aussi, là on dit que l'entreprise elle a 5 ans, mais en gros les premiers 6 mois on n'a pas beaucoup travaillé.
Ouais. Donc ça c'était assez marrant de vivre un peu au frais de la princesse, quoi.
C'est ça. Bon,
faisait un peu travailler.
Fallait travailler, non, mais justement c'était très dur parce qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'est l'accélérateur, il y a des objectifs, il y a des pitchs, il y a des demo days. C'est un super accélérateur en plus qui aujourd'hui cartonne. Et c'était un peu dommage de dire, mince, si maintenant ça nous arrive une aventure comme ça, c'est sûr qu'on va s'en sortir avec un contrat à New York, on va installer les stations aux US, ça va être génial. Mais là, pour nous, à cette étape-là, c'était tellement tôt et c'est tellement du gâchis que c'est vraiment dommage.
Ouais, tu regrettes un peu?
Ouais, mais faudrait les faire maintenant. Ouais.
Bon, là, c'est peut-être tard.
Hein, là, c'est un peu tard.
Et quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Il faut y aller, il faut prendre le risque et il ne faut pas avoir peur. En gros, c'est une bonne phrase, fake it till you make it. Donc tu racontes des histoires, tu inventes, tu vends ton rêve et tant que tu ne l'as pas, tu l'inventes.
Donc, merci Paulina pour ce podcast.
Merci beaucoup, on a bien rigolé.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.